Bonjour à vous, bienvenue sur Radio Primitive. Nous sommes les élèves de 3e des cordées de la réussite de Sciences Po, du collège de Coubertin de Cormontreuil. Les cordées de la réussite sont un dispositif national d'entraide et de partage entre les étudiants de Sciences Po et des élèves du collège.
Chaque année, les cordées mettent en place un projet. Pour la cordée Coubertin, nous avons choisi de créer une émission de radio. Alors nous avons constitué des groupes et on a chacun choisi un sujet qui nous tient à cœur. Allez les cordettes, le micro est à vous.
Bonjour, récemment nous étions le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Une occasion pour nous de revenir sur le parcours d'une femme importante, celui de Simone Veil.
Oui, mais qui était Simone Veil ?
Simone Veil était une femme mondialement connue pour ses combats, sa lutte pour les droits des femmes et son passé difficile.
C'est une survivante de la Shoah et elle a été plusieurs fois ministre.
Elle a également permis la légalisation de l'avortement en France.
Mais elle a même été la première femme à avoir été élue au Parlement européen.
Durant sa jeunesse, elle fut internée avec une de ses sœurs et sa mère dans un camp de concentration. Elle y a malheureusement perdu sa mère. Son frère et son père, eux, sont morts en Lituanie à la suite d'une déportation.
En effet, elle est parvenue à s'en sortir physiquement, malgré les nombreux traumatismes que cela a pu lui causer.
Elle a ensuite repris ses études et n'a fait que gravir les échelons en s'imposant face aux hommes de sa génération. Elle ne s'est pas laissée abattre.
Tout juste, elle est une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Elle l'a montré avec son parcours politique impressionnant.
Elle est grandiose. Ses combats vont jusqu'en Algérie.
Tout à fait. Elle a empêché de nombreux prisonniers algériens de se faire exécuter pendant la guerre d'Algérie. Pour cela, elle a ramené 600 d'entre eux en France.
Parmi ces prisonniers se trouvaient la plupart du temps des femmes détenues qui subissaient la torture et le viol.
Elle a tout fait pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. Elle faisait part d'un grand cœur et s'est occupée des moins favorisés de cette époque.
Effectivement, elle a aussi travaillé pour l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail.
Enfin, elle est une très grande femme inspirante.
Et elle a pu prouver que même si le chemin était long et rude, on pouvait y arriver.
Alors il ne faut pas baisser les bras et aller de l'avant, peu importe les échecs.
C'est une leçon de vie que tout le monde devrait considérer, selon nous.
Maintenant, nous espérons que plus rien ne vous empêchera d'atteindre vos objectifs.
Mais après avoir évoqué la vie de Simone Veil, nous allons parler cinéma.
Avec Mathéo, Clovis et Yanis.
Avec mes camarades Yanis et Mathéo, nous vous expliquerons comment Disney, cette franchise que vous connaissez sûrement tous, s'est imposée dans le temps et comment a-t-elle réussi à écraser ses nombreux concurrents.
Commençons d'abord par savoir où est né le studio Disney. Il a vu le jour en Californie avec deux frères, Walt et Roy Oliver Disney. Après plusieurs échecs cuisants et plus d'argent en poche, Walt décide de rejoindre son frère Roy en Californie pour fonder le premier studio Disney qui se trouve, eh bien, dans un garage.
Oui, dans un garage !
Maintenant les présentations faites, voyons comment d'un garage, ils sont passés par un studio et enfin, l'empire que nous connaissons aujourd'hui.
Ce sera en 1924 que Walt Disney décide de créer quelque chose de nouveau, d'insemblable pour l'époque. Un long métrage d'animation en couleur et sonore, en plus, rien que ça.
Et ce sera après beaucoup de retard sur le projet que le film Blanche-Neige et les Sept Nains sortira finalement en 1937.
Ce sera le plus gros box-office de l'époque, en rapportant plus de 8 millions de dollars à Disney. Vous vous dites peut-être, ça y est, la machine est lancée. Eh bien non en fait, car après plusieurs échecs cuisants, comme la sortie de courts-métrages qui n'ont pas fonctionné ou encore le film Pinocchio qui n'était pas une réussite à l'époque.
Puis pour ne pas arranger les choses, manque de sens, la Seconde Guerre mondiale arrive, et les figures phares de Disney, Mickey et Daffy Duck, sont alors réquisitionnés par l'État pour créer des pubs et des affiches de propagande contre l'euthanasie.
Mais ce sera dans les années 50 que Disney reprendra du poil de la bête, en sortant un film qui lui aussi, jusqu'à aujourd'hui, connaîtra un franc succès, Cendrillon.
Donc, grâce aux importants bénéfices générés aux USA, et totalisant plus de 12,8 millions d'entrées en salle en France après la fin de la guerre, cela permettra à Disney d'ouvrir son parc d'attractions, là où tout a commencé, en Californie.
Mais tout à coup, Mickey Mouse se retrouvera orphelin. Walt Disney, très grand fumeur, succombera à un cancer des poumons en 1966.
Et cet événement va venir corser les choses. Pour Disney, même si les prochains films de Disney sont fructueux, ils seront très loin d'être aussi attirants que les anciens. Le studio décide alors de revenir à ses sources.
Et ce sera 20 ans après la révolution sexuelle qui décide de sortir en 1989 Ariel, la petite sirène, qui ressemble à une audience conséquente.
Car il sera le premier film où une princesse participera activement aux actions du déroulement de sa propre histoire. Les années 90 seront la renaissance du studio qui enchaînera classique sur classique, comme Aladdin, Pocahontas ou Hercule, engendrant des millions de dollars de recettes.
Malheureusement, en 1994, Jeffrey Katzenberg considéra la raison de cette renaissance et poussé à démissionner coûtant 250 millions de dollars à la compagnie.
Il part fonder son propre studio, DreamWorks, avec Steven Spielberg. La compétition entre les deux sera rude, mais c'est là que le studio Pixar, pionnier des images 3D, apparaît.
Et Disney aura beaucoup de mal à rivaliser avec, en sortant par exemple le film Dinosaur, qui couvrira à peine l'argent nécessaire aux besoins de réalisation. Mais loin de faire faillite en 2006, il décide d'éliminer le problème en rachetant Pixar pour 7,4 milliards de dollars, car la franchise générait beaucoup de revenus et de critiques positives.
Puis ce sera en 2010 que la 3D sera en marche chez Disney, avec le film Réponse.
La même année, Disney rachète Marvel et 2 ans plus tard, Lucasfilm. Puis finiront par acheter la plupart des droits de Century Fox, acquérant donc les X-Men.
Mais une question nous trotte dans la tête.
Comment Disney ont-ils pu avoir un succès dans beaucoup de films? La réponse est assez simple. Dans la plupart des films Disney, nous avons un méchant et un gentil, peu complexe à identifier.
Aidant ainsi les enfants à mieux se repérer dans le film.
Méchants perdants et gentils gagnants sont une recette sûre pour plaire aux enfants. C'est pour ça que la majorité des films de princesses sont aussi populaires.
Mais pour répondre aux plus grands, Disney doit aussi s'adapter avec des films de plus en plus poussés, notamment au niveau des effets visuels, mais aussi au niveau de l'histoire, comme Deadpool, les Avengers et les suites qui vont avec.
Il y a aussi la réadaptation des dessins animés en films réels, comme Tarzan, puis la sortie de leur plateforme de streaming, Disney+, qui grâce aux nombreux droits d'auteur et le fait que Disney alimente cette plateforme avec ses propres créations, concurrence Netflix.
Bref, si on doit retenir une chose de tout ça, c'est que même si Disney a connu des hauts et des bas, ils ont su jouer les cartes qu'ils avaient en main au bon moment pour revenir sur le devant de la scène.
Nous restons maintenant dans le divertissement et nous parlons maintenant d'un grand événement. Restez à l'écoute avec Kebo, Milan et Anaïs.
Effectivement, nous allons parler d'un événement très attendu dans le domaine des mangas et de la culture japonaise, de manière générale, n'est-ce pas Anaïs?
Oui, tout à fait. Il s'agit de la Japan Expo. Elle aura lieu du 13 au 16 juillet prochain. Donc sortez vos agendas. D'ailleurs, l'édition 2022 avait accueilli plus de 200 000 visiteurs. On peut dire que ce fut un succès.
Mais c'est quoi exactement la Japan Expo?
C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Alors, la Japan Expo est un événement culturel qui a pour but de mettre sur le devant de la scène la culture japonaise, de la plus traditionnelle à la plus moderne, voilà, en invitant le public à rencontrer les invités qui animeront plusieurs stands.
Mais il ne faut pas oublier aussi la culture geek, avec les mangas, les jeux vidéo, les animés ou encore les films qui sont très populaires.
Chaque année, la Japan Expo change de destination et cette année, tout comme la première édition de 1999, elle se déroulera à Paris.
Quel type de stand on y retrouve précisément?
Il y aura beaucoup de stands de nourriture artisanale, de figurines, de posters ou de goodies. Le public pourra aussi découvrir des concours de cosplay, c'est-à-dire se déguiser en imitant à la perfection, bien sûr, son personnage en fiction préféré.
C'est vrai qu'il y aura aussi des rencontres avec des personnalités de la culture geek et des influenceurs avec des stands d'autographes. C'est un moment très attendu.
Ouais, on espère, chers auditeurs, vous avoir convaincus. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous à Paris le 13 juillet prochain. Restez à l'écoute sur Radio Primitive, apprenez à nous connaître à travers nos activités en dehors du collège, grâce à Myriam.
Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais vous présenter le résultat d'une petite expérience que j'ai menée au sein de l'Accordé. J'ai demandé à tous mes camarades, de tout âge, quelles activités ils pratiquaient en dehors des établissements scolaires, car nous avons tous des passions et des goûts différents, que ce soit juste des loisirs, du sport ou des activités quelconques qu'ils pratiquent en dehors de l'école. D'après les résultats que j'ai eus, j'ai pu avoir la preuve que nous avons tous des loisirs et activités différentes malgré tout. Par exemple, du côté du sport, certains font du basket, du tennis, de la gymnastique, d'autres font du badminton ou préfèrent simplement marcher. Après, question loisirs, il y a aussi énormément de variétés. Que ce soit quelque chose que beaucoup aiment, comme le dessin, le shopping, passer du temps avec la famille ou les amis, ou même des loisirs qu'on ne voit pas souvent, comme le crochet, le billard, le théâtre, ou simplement jouer à des jeux de société. Et puis, on remarque que même dans les occupations les plus simples, on peut trouver des différences.
Beaucoup m'ont répondu qu'ils aimaient lire, regarder des films, des séries, ainsi qu'écouter de la musique. Pourtant, la diversité y est toujours présente. Certains aiment lire de la romance ou des drames, tandis que d'autres aiment les romans policiers, avec de l'intrigue. Pour ce qui est des films et séries, beaucoup aiment les comédies, même si on y retrouve encore une fois la romance, qui est très appréciée, mais aussi des films d'horreur. Et enfin, la musique. Encore une fois, tellement de goûts différents. Entre le rap français, le rock, le modern jazz, la pop, Eminem, de la drill et beaucoup d'autres que je ne saurais citer. Mais à présent, pour conclure, j'aimerais vous poser une question, chers auditeurs et auditrices. Aimez-vous danser ? Si c'est le cas, on vous laisse avec Mathilde et Julia.
Bonjour à tous. Alors, nous avons vous parlé de la danse. Tout type de danse. Danse de salon, danse contemporaine, danse moderne, etc.
Nous avons recueilli plusieurs avis et a priori sur ce vaste sport en demandant autour de nous et aux membres de notre collège.
Nous allons en discuter, dire ce que l'on en pense. Pour commencer, nous allons d'abord parler de notre propre expérience. Moi, personnellement, je pratique le rock et le modern jazz. Et toi, Julia ?
Eh bien, moi, quand j'étais petite, j'ai fait un petit peu de danse.
Eh bien, commençons. Premier préjugé. La danse, c'est pour les filles.
Pas forcément, car tout le monde peut faire de la danse. Oui, il n'y a pas que les filles qui ont cette priorité de toujours faire la danse.
Il y a même certains types de danse où il y a beaucoup plus de danseurs que de danseuses.
Préjugé souvent. Suivant, toutes les danseuses s'affament pour rentrer dans leur costume.
Alors là, je suis désolée de vous dire que c'est totalement faux. C'est vraiment... Ça vient vraiment que de quelqu'un qui n'est jamais entré dans cet univers parce que c'est vraiment un énorme cliché qui n'est absolument pas fondé. Les danseuses et même danseurs sont tous des corpulences différentes et pourtant ça n'empêche rien. Alors, préjugé suivant. Les danseuses et danseurs dansent juste pour se donner en spectacle et attirer l'attention.
Ben, ils veulent montrer leur progression, qu'ils savent faire des choses que peut-être d'autres ne savent pas faire, mais c'est pas totalement vrai.
Je dois avouer aussi qu'il y a une petite part de vérité, mais après, ça va avec. Ce n'est pas non plus l'objectif premier, se donner en spectacle. On danse pour le plaisir, mais on se donne en même temps en spectacle, c'est, il est vrai.
Bref, continuons. Il faut être souple pour danser.
Alors, celui-là, il est un peu compliqué. Je dois avouer qu'il y a certaines danses où être souple, c'est demander, mais pas forcément et absolument pas du tout nécessaire. C'est absolument pas du tout une obligation.
Dans certaines danses, comme la danse classique ou même la pole dance, pour pouvoir réussir, il faut pratiquer quelques exercices de souplesse pour réussir certaines figures, mais ça concerne pas toutes les danses.
Et enfin, pour le terminer, dernier préjugé. La danse, ce n'est pas accessible pour tous. Alors là, c'est même tout le contraire. S'il y a bien un sport qui est très facilement accessible, c'est la danse. Des écoles de danse, il y en a vraiment partout. C'est tellement varié que ça peut plaire à n'importe qui. Il faut juste trouver chaussure à son pied, comme on dit.
Bien, merci de nous avoir écoutés. Ancel contre les préjugés avec Manon et Marjorie et leur fidèle destrier.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi l'équitation est un sport avec autant de préjugés.
Oui, l'équitation est un sport. Nous sommes actuellement cavalières et nous entendons souvent cette phrase. L'équitation n'est pas un sport, c'est le cheval qui fait tout. Mais pourtant, ceci en est bien un. L'équitation est vraiment un sport, la preuve, il fait partie des disciplines olympiques et fait partie des fédérations françaises des sports.
Oui, c'est un sport très physique et complet, qui fait travailler tous les muscles du corps. Ceux du dos, de la ceinture abdominale et du bassin sont particulièrement sollicités. Ils communiquent directement avec les mouvements du cheval, que l'on appelle les allures.
D'ailleurs, les jambes ne sont pas en reste, en particulier les mollets et les adducteurs, travaillent continuellement pour vous garder en selle. De plus, le trot et le galop exigent un bon tonus musculaire. Ils sont excellents pour le gainage, c'est-à-dire augmenter la fermeté des muscles au repos.
Pour 20 minutes d'entraînement au saut d'obstacle, un cavalier dépense environ 200 kcal. C'est ce que dépense sur la même durée un coureur à pied. Voilà, vous êtes convaincus ? Si vous ne l'êtes pas encore, voici quelques citations de cavalières mondialement connues.
Il apporte de la confiance en soi et une bonne condition physique. Précise Mélodie Lévergneux, qui est monitrice au ranch de la Foucaudière à Domfront. Mais l'équitation n'est pas seulement un sport, il faut aussi avoir une complicité avec le cheval pour en tirer le meilleur de lui et de nous-mêmes.
Même Pénélope le Prévôt, une cavalière expérimentée, le dit. Je suis content de mon parcours et de montrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui montent dans des clubs que cela est possible. Il n'y a pas besoin d'argent. On peut y arriver simplement en aimant les chevaux et en donnant le maximum de soi-même.
Pour ceux et celles qui reçoivent des moqueries en permanence, nous avons quelques conseils pour vous. Même si cela paraît difficile, il faut les ignorer et se dire que ces personnes ont peur des chevaux ou n'ont jamais fait de l'équitation. Ce n'est pas avec une simple balade au pas qu'ils peuvent affirmer en avoir déjà fait. Et se dire que l'on n'est pas seul, à force, vous allez même plus y prêter attention.
Courage à vous. Et pour finir, prenons un bon bol d'air frais. Léopold, Dimitri et Thomas, on vous écoute.
En tant que collégiens, nous sommes sensibilisés aux gestes écologiques importants à mettre en place à notre échelle. Laissez-nous vous les présenter. Ne pas jeter les déchets par terre et respecter l'environnement. La biodiversité a toujours été une utilité. Pour autant, l'humanité abuse et la puise. La nature est trop belle pour qu'on la détruise.
Réparer et réutiliser sont des choses à ne pas oublier. De nombreux projets écologiques ont été mis en place. Le tri sélectif à la cantine et dans les salles de classe. Et c'est évident de le rappeler, évitons le gaspillage alimentaire. Chaque semaine, des élèves en études sont sollicités pour ramasser les déchets dans la cour.
Nous avons aussi installé un composteur et ajouté des poubelles dans les classes pour le recyclage des papiers. Récemment, une mini-forêt a été plantée dans la cour, ainsi qu'une cabane à insectes. Le prochain projet écologique du collège va être un récupérateur d'eau de pluie pour les économies d'eau.
C'est ici que se termine ce projet radio. On remercie nos stars Lina, Adil et Jeanne, les étudiantes de Sciences Po. On remercie aussi la professeure la plus adorable du collège de nous avoir aidés et accompagnés tout au long de cette expérience, Madame Zentner.
Un grand merci également à Radio Primitive et à Madame Vigourou de nous avoir permis de réaliser ce projet.
Bravo à nous, les élèves qui se sont impliqués dans le projet. Merci Mathéo pour la musique que tu as composée. Et enfin, ne l'oublions pas, merci à tous nos auditeurs et auditrices et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était les 3e du collège Coubertin avec les cordées de la réussite sur Radio Primitive.